Bonjour, chers écouteurs.
Dostoïevski et la Russie.
Chez nous, même les assassins ont besoin du Christ. Même les criminels voudraient être des saints. Sait-on pourquoi cet homme a tué ? Peut-être tout simplement pour expier, pour endurer dans le châtiment les mêmes souffrances que le Seigneur. Et moi, je dis que toute l'âme russe est là.
Les crimes qui se commettent en Russie peuvent être d'une cruauté inouïe. Pourtant, dans le sol russe se dessine un chemin qui tend vers le ciel. Le pays serait-il fait d'une matière particulière ? Dostoïevski en est persuadé. Le peuple russe pue, mais il croit en la vérité. Et comme il croit, le sauveur se montre à lui. C'est l'expérience personnelle de Dostoïevski qu'il fait parler ainsi. Ses contemporains de l'intelligentsia l'ont d'abord attiré vers les idées de l'époque, telles qu'elles venaient d'Europe, l'esprit des Lumières continué, le socialisme débutant. Et pour tuer le despotisme, il aurait alors été prêt au terrorisme. Mais, arrêté par la police, objet d'un simulacre d'exécution, envoyé au bagne en 1849, il est comme retourné. Désormais, le contemporain qu'il faut invoquer, c'est le sauveur. La Russie a ceci de particulier qu'il a fait échapper à la commune condition. Elle se tient prête à accueillir le second avènement du Christ. Il arrivera à Dostoïevski de devoir se réfugier en Europe, mais il vomit l'étranger. Il écrit en russe pour un public russe. Au moment où se creuse le schisme entre Poutine le nationaliste et l'Occident post-moderne, s'il est un auteur qui incarne l'altérité de la Russie, c'est bien Dostoïevski.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Et on est convaincu, André Markovitch, bonjour.
Bonjour.
Grand traducteur devant l'éternel et en plus d'une langue, mais surtout traducteur du russe, vous vous êtes engagé dans la traduction de l'œuvre complète, romanesque, de Dostoïevski dans les années 1990. Actes ouais. Sud est en train de rassembler tout ce que vous avez déjà traduit, publié de manière dispersée. Il y a déjà 3 volumes, il y en aura 5. Alors c'est extraordinaire à lire parce qu'on connaît la route nationale des grands traducteurs français de Dostoïevski, mais vous, vous êtes comme un conducteur qui s'engage sur cette route, qui guette les mots, les chaos.
C'est-à-dire, moi j'ai eu cette chance de pouvoir traduire tout. C'était avec Hubert Nissen, c'était le contrat.
Le patron d'Actes Sud.
Oui, c'était de traduire l'intégrale et de le traduire l'intégrale en suivant 3 principes. Le premier, c'est cette espèce de passion dans la langue parlée, écrite. C'est-à-dire, et cette passion, il faut la transcrire d'une façon ou d'une autre, par écrit en français, ce que les autres traducteurs ne faisaient pas. Mais cette passion, elle signifie aussi un autre aspect. C'est la mauvaise foi de celui qui parle. Parce que quand on parle, ben, c'est par nature, surtout quand on met beaucoup de fougue, c'est qu'en gros, on cache quelque chose. Et cette notion de mauvaise foi est capitale. Et puis il y avait une troisième chose. C'est-à-dire que moi, je lisais les romans de Dostoïevski comme de grands poèmes, avec des répétitions de motifs, de mots, et qu'il fallait aussi transcrire d'une façon ou d'une autre. Et donc c'est ces 3 moments simultanés qui justifiaient pour moi cette entreprise que j'ai eu la chance d'accomplir, c'est-à-dire.
Et vous parlez aussi vite que Dostoïevski écrivait, parce qu'il était pressé par les dettes, il avait aussi des problèmes d'argent liés au jeu, il fallait qu'il rende des textes en feuilleton.
Mais tous les écrivains à l'époque rendaient les textes en feuilleton, sauf que, en fait, c'est plus terrible que ça. C'est-à-dire que Dostoïevski passait la plupart de son temps à ne pas écrire, mais à imaginer et à construire ses plans. Et il disait, ça, c'est le vrai travail du poète. C'est-à-dire construire les images. Et il arrivait toujours en retard, parce que naturellement, il jouait, et voilà. Et au moment, à 3, par exemple, l'idiot, il a rédigé la première partie de l'idiot qui fait 500 pages en 3 semaines.
Et la première phrase, c'est
Ah, mon Dieu.
Le train.
Le train, oui, bien sûr. Mais quelle est la phrase précise, je ne sais pas.
Mais le train file.
Le train file. Mais vous comprenez, et l'image du train, c'est l'image de la conscience aussi. Comme ça.
Alors, on va vous applaudir dans vos traductions, André Markovitch, mais on sait que c'est une traduction de Markovitch, ça se sent. Nous, on va travailler à partir d'adaptation, oui, télévisée ou radiophonique. Et puis une adaptation, on sait que c'est une adaptation, il faut le dire dès le départ. Ici, on est première œuvre dans laquelle nous allons plonger, Crime et Châtiment, 1865-1866, dans une adaptation de Stello Lorenzi, c'est pas si mal. Souvenez-vous, c'est une des lignes directrices de Crime et Châtiment, la ligne de la misère, la ligne Marmeladov. Marmeladov, c'est un personnage qui est un conseiller titulaire,
un petit fonctionnaire.
Retraité.
Pas retraité, c'est incapable de travailler parce qu'il est alcoolique et parce qu'il est incapable de faire quoi que ce soit, sinon de voler de l'argent pour boire.
Il est dans un tripot avec le jeune étudiant Raskolnikov, il n'a sur lui qu'un froc en loque, avec un seul bouton qui tient, si je me souviens bien de votre traduction.
Absolument.
Il a la langue embarrassée, c'est ça ?
Il a, en russe, il est kasnyezichny. C'est-à-dire qu'il a du mal à parler. Sauf que kasnyezichny, c'est le mot qu'emploie la Bible en russe pour parler de Moïse, qui a du mal à parler.
Mais la misère, monsieur. La misère est un vice. Oui, dans la pauvreté, on conserve encore la noblesse de ses sentiments. Mais dans la misère, personne n'y est jamais parvenu. Donc, quand un individu est tombé aussi bas, on ne prend pas un bâton pour le chasser, mais un balai, afin de rendre la chose encore plus humiliante. Et on a raison, car dans la misère, on est le premier à vouloir s'humilier. Je vous demande, jeune homme, vous est-il jamais arrivé de solliciter qu'on vous prête de l'argent sans aucun espoir?
Mais que voulez-vous dire par sans espoir?
Mais je veux dire en sachant à l'avance que votre démarche sera sans résultat. Et bien que vous ayez cette certitude, vous mettez tout de même en route pour...
Pourquoi y aller
alors? Mais parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Non, ma petite Sonia, ma fille unique, est allé pour la première fois s'inscrire à la police pour avoir sa carte.
Et le patron et les clients de la taverne rigolent quand Marmeladov, François Vibert, dit qu'il en est venu à accepter de prostituer sa fille Sonia qui vient de se voir attribuer par la police la carte jaune.
La carte jaune, le billet jaune.
La misère russe, il est d'une sensibilité à la misère russe et la misère des paysans et des moujiks d'abord, les moujiks qui ont assassiné son père.
C'est une histoire très complexe, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce qu'il a été assassiné, est-ce que le père a été assassiné simplement à cause de la misère ou parce que, en fait, il violait les filles, etc. On ne sait pas. Mais la misère russe, à l'époque, elle est insondable. Dans les campagnes, de toute façon, dans les campagnes, c'est des esclaves, c'est-à-dire que les paysans appartiennent à leur maître. L'image de la misère et de la haine dans Crime et Châtiment, c'est l'image de la hache. La hache, c'est l'arme du pauvre. C'est l'arme devant laquelle il n'y a aucun salut. Et toute la Russie est une accumulation de haine.
Raskolnikov, le jeune étudiant, va à la hache tuer une vieille femme prêteuse sur gage, qui pratique des taux d'intérêt inouïs, elle et sa sœur. Et c'est après, deuxième scène, deuxième ligne directrice de Crime et Châtiment, la ligne du crime, que Raskolnikov est en conversation avec quelques-uns de ses amis. C'est toujours la version Lorenzi, Martouret et Raskolnikov.
C'est très très belle.
Hein, vous voyez, vous acceptez d'autres traductions.
Oh bah alors.
Philippe Léotard, jeune, et Razoumikine, et Jean Topard, et Porfir Petrovitch.
Cela a commencé par le point de vue des socialistes.
Ah non, pas tout à fait. Des fourriéristes.
Ouais, enfin, si tu veux, bref. Enfin, pour eux, le crime est une protestation. Une contestation contre la mauvaise organisation de la société, c'est cela et rien de plus. Ils prétendent que tout vient de l'influence délétère du milieu. De là à conclure que si l'on réorganisait la société, les crimes disparaîtraient, il n'y a qu'un pas.
Il n'en est pas moins vrai que L'influence du milieu est pour beaucoup dans les crimes, mais ça, c'est pas Fourier, c'est moi qui le dis.
Je sais bien qu'elle est pour beaucoup, mais dis-moi, par exemple, si un homme de 40 ans viole une fillette de 10 ans, c'est l'influence du milieu qui l'y a contraint ?
Ouais, c'est pas impossible. Le viol d'une petite fille peut fort bien s'expliquer par l'influence du milieu. À propos du crime et du milieu, je viens de me rappeler un article qui m'a beaucoup intéressé. Qu'il y aurait au monde certains êtres qui peuvent... Non seulement qui peuvent, mais qui ont le droit absolu de commettre toutes sortes d'actions déshonorantes et de crimes, et pour qui la loi n'existe pas.
Quoi, le droit au crime ? Et tout cela à cause de l'influence du milieu ?
Mais non, mon vieux, mais non, il s'agit ici d'une théorie. Les hommes sont divisés en deux catégories. Les hommes ordinaires, qui doivent vivre dans l'obéissance et qui n'ont pas le droit de transgresser les lois, et ça, parce qu'ils sont ordinaires. Et les hommes extraordinaires, qui ont le droit de commettre tous les crimes, de violer n'importe quelle loi, parce que, précisément, ce sont des hommes extraordinaires.
Cet homme extraordinaire, Raskolnikov, se compte parmi eux, puisque c'est un article de lui dont il est question, qu'il a publié avant de tuer la vieille usurière. Il y aurait donc un homme nouveau qui aurait le droit de tuer l'homme parce qu'il est issu des Lumières, du socialisme, que sais-je.
C'est la théorie de Raskolnikov qui est en fait une espèce de dégradation du lieu commun romantique de l'homme du destin. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, comme par exemple Napoléon, qui ont le droit et le devoir de tuer des millions de gens au nom d'un dessein supérieur.
D'ailleurs, le personnage de Napoléon passe dans cette
conversation. Et Raskolnikov se posera la question « Что я вошь или Наполеон ?» C'est-à-dire « Qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis un pou ou est-ce que je suis Napoléon ?» Et c'est l'image absurde de la dialectique qui est une des grandes, grandes obsessions de Dostoïevski, de dénoncer la dialectique.
Oui, mais Raskolnikov va choisir un chemin qui lui permet d'échapper à cette situation sans issue. Il ne va pas chercher à se justifier quand il va passer aux aveux. Il va même le désir de s'accuser davantage.
Mais il va dire une chose terrible à Sonia. Il va dire, mais ce n'est pas un pou, ce n'est pas un être humain que j'ai tué, c'est un pou.
Mais il va changer de position.
Après. C'est-à-dire que pendant tout le roman, le problème de Raskolnikov, c'est justement qu'il n'arrive... Il parle beaucoup, 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 il pose plein de questions, mais la seule chose qu'il n'arrive pas à dire, c'est la chose de base, que c'est pas un pou qui l'a tué, c'est un être humain. Et le mystère de l'existence, c'est ça. C'est que cette vieille femme puante, détestable, qui empêche les gens de vivre, c'est un être humain. Et qu'on n'a pas le droit de la tuer.
Et Sonia va contribuer à le lui faire entendre.
Et Sonia va dire, va et marche. Exactement. Et c'est, on parlait de la langue embarrassée. Mais l'image par derrière, c'est l'image du buisson ardent. C'est-à-dire quand Dieu apparaît à Moïse qui est pour rien et qui dit, mais pourquoi moi j'irai ? Le buisson ardent dit, va et énonce la loi.
Oui, mais ça, ça veut dire, va et dénonce.
Et dénonce-toi. Va et dénonce, va, dis, j'ai tué. Et c'est seulement quand il sera au bagne que Raskolnikov, après une maladie, et après avoir compris pourquoi ses amis bagnards lui diront « Mais c'est pas à toi de tuer avec une hache, c'est pas à toi de le faire. Toi, tu sais pas tuer avec la hache. » Parce que, voilà.
Raskolnikov, l'assassin de Crime et Châtiment, qui n'est pas sans ressembler à Dostoïevski, on expliquera pourquoi se retrouve, la tête rasée, avec les travaux forcés, en compagnie de Sonia, qui l'accompagne, comme toute femme russe qui se respecte. Souvenir de la maison des morts, c'est le titre de l'opéra de Janáček. Ici, c'est Boulez qui dirige le Mahler Chamber Orchestra. Les cloches sonnent, la fin de la corvée. On va manger, et il y aura toujours un prisonnier pour raconter comment il a tué.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec André Markovits, traducteur de Dostoïevski, on parle aujourd'hui de Dostoïevski et la Russie. Un des prétextes, c'est la parution de 3 volumes déjà chez Actes Sud de votre traduction des œuvres romanesques complètes. Vous traduisez toujours à nouveau frais, par exemple, Souvenir de la Maison des Morts, non?
Non, c'est pas Souvenir de la Maison des Morts. En russe, Zapiski iz mertvogo doma, souvenir ou carnet, ça, c'est pas grave, mais de la maison morte. Et c'est fondamental. Parce que Souvenir de la Maison des Morts, on a l'impression que les gens au bagne sont morts et à dehors, c'est la vie. Dostoïevski dit exactement le contraire. Dostoïevski dit que la maison, c'est-à-dire la structure, le pays, l'État, est mort. Mais à l'intérieur, il y a la vie.
D'ailleurs, il a fait l'expérience lui-même du bagne, oui, il faut oui. le dire. Il a failli tuer, il aurait pu être terroriste. La police l'a arrêté, oui. Il va être envoyé au bagne, le bagne va le retourner. Ça va être comme une expérience christique.
Oui, alors il n'aurait jamais accepté de tuer. On pense que son rôle à lui était d'imprimer des choses, mais c'est un détail. Mais de fait, en arrivant au bagne, il se retrouve dans la situation qu'il décrit, c'est-à-dire dans une situation de totale étrangeté. Et dans cette situation de totale étrangeté, il découvre le peuple. Et il découvre la haine, la violence et la solidarité. En
Mais
même temps.
Avant cette expérience, il en a connu une
oui,
encore plus extraordinaire oui. entre son procès et l'envoi au bagne. Comme c'est toujours lui qui parle à travers beaucoup de ses personnages, voici le prince Michkin dans L'Idiot. C'est une version d'André Barsac, c'est Philippe Avron qui joue le rôle du prince. Sans cesse, le prince parle de la guillotine, des pelotons d'exécution. Il a toujours une histoire à raconter à ce sujet.
L'année dernière, j'ai rencontré un homme qui avait été condamné à mort. Il a été conduit sur les lieux de l'exécution et puis gracié un quart d'heure après. Mais pendant ce quart d'heure, il était certain qu'il allait mourir. Ils étaient plusieurs à devoir être fusillés et comme il n'y avait que 3 poteaux et qu'il n'était que le 8e, il ne devait passer qu'au 3e tour. Les 3 premiers étaient déjà attachés aux poteaux, on leur mit leur cagoule et les soldats s'alignèrent devant eux. Il ne restait plus à mon ami que 5 minutes à vivre. Il me disait que ces 5 minutes lui ont paru alors une richesse infinie. Il lui a semblé qu'il pourrait transformer ces 5 minutes en tant de vie qu'il était encore inutile de penser au dernier moment. Une seule pensée l'obsédait. Si je pouvais ne pas mourir, si la vie m'était rendue, alors je transformerais chaque minute en éternité. Je ne gaspillerais plus ce trésor. Il disait que cette pensée avait dégénéré chez lui en une telle rage qu'il en était arrivé à désirer qu'on le fusille, ou plutôt.
Mais pourquoi nous avez-vous raconté cela?
Pour rien. Cela m'est venu à l'esprit dans la conversation.
Cela m'est venu à l'esprit dans la conversation d'Ibishkin. Avron, ouais. Il raconte son histoire, celle de Dostoïevski.
Dans L'Idiot, il raconte ça aux trois filles du général Panchine. Oui, et c'est l'expérience.
Il a été conduit lui-même après sa condamnation au peloton d'exécution.
Il a été condamné à mort. Contre eux, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils soient condamnés à mort. Et ils ont été condamnés à mort et ils ont subi un simulacre d'exécution qui était une expérience absolument fondatrice pour Dostoïevski, c'est-à-dire l'expérience de la seconde. Qu'est-ce que c'est qu'une seconde? Qu'est-ce que c'est que cette seconde dans laquelle, eh ben après laquelle il n'y a plus rien? La seconde de l'Apocalypse.
Ben, c'est l'instant où le Christ, qui est la durée, peut se manifester.
Exactement, c'est exactement ça. Et l'aspiration, et dans la scène c'est décrit, l'aspiration de Michkin vers cette lumière du soleil qui tombe sur la coupole d'or, est aussi, ça c'est une chose, l'aspiration vers cette éternité du Christ, et en même temps, l'épilepsie, c'est-à-dire la puissance inhumaine de la beauté qui détruit.
Dostoïevski a connu aussi l'épilepsie.
Voilà.
C'est à partir de L'Idiot, dites-vous, André Markovits, que Dostoïevski commence à dire très explicitement « nous, les Russes ». Et c'est encore davantage le cas dans le dernier livre que nous allons effleurer, « Le monument inachevé », le roman le plus long, « Les frères Karamazov », 1878-1880. Alors, un mot, il y a plusieurs frères Karamazov.
Bah, c'est-à-dire, en fait, c'est l'histoire des trois mousquetaires. Il y a trois frères plus un quatrième. Hein. Il y a, Dmitri, qui est le frère aîné, qui est l'homme des passions. Ivan, le cadet, qui est le philosophe, l'homme du doute, l'homme du ressentiment. Je dis ça très grossièrement. Alyosha, le troisième, qui est théoriquement un saint, enfin qui aspire à la sainteté, on verra que c'est pas du tout ça. Et il y a un frère bâtard, Smirdiakov, ça veut dire le puant. Il faut pas dire qui a tué le père, mais parce que sinon le lecteur ne. Mais voilà. Mais il y a quatre frères.
On reviendra sur le thème de l'odeur, voilà. D'ailleurs, je crois.
Oui.
Mais restons avec Alyosha, celui qui voudrait être saint. Jean Dostoïevski a connu avec sa mère l'expérience des monastères. C'est la grande époque du tsareste en Russie, du père spirituel, de celui qui fait la médiation entre la terre et le ciel. Nous sommes ici dans une adaptation radio de Jean-Jacques Vierne. Nous n'avons pas pu identifier qui jouait fort bien le tsaretz Zosime, qui s'appuie dans le monastère sur Alyosha parce qu'il est très faible et qu'il va mourir.
Dans le jardin paraît le père Zosima. C'est un vieillard petit de taille, maigre et légèrement voûté. Il s'appuie à l'épaule d'Alyosha Karamazov.
Tous ceux qui sont venus vers vous pleins de troubles s'en vont apaisés, satisfaits.
S'il est permis à un homme, à un pécheur, de réjouir ainsi le cœur de ses frères.
Père, comment pouvez-vous accomplir ces choses merveilleuses?
Ah, tout vient de Dieu, mon fils. Cette femme qui a fait 6 verstes à pied avec son enfant sur les bras pour me porter une offrande, elle m'a fait plaisir. L'homme est créé pour le bonheur, Alyosha. Sois gai comme les enfants, comme les oiseaux du ciel. Il suffit d'aimer sans cesse, d'aimer tout le monde.
Près de vous, tout m'était facile. Sans vous, c'est l'angoisse et les ténèbres.
Eh bien, tu t'en iras vers les ténèbres après ma mort.
Nous sommes comme dans une odeur de sainteté. Oui, mais voilà, l'histoire est une énigme, parce qu'aussitôt après qu'il est mort...
Il se met à puer très vite. Très vite. Et naturellement, s'il est un saint, il ne peut pas puer. Et pour Alyosha, c'est une catastrophe totale, d'autant plus que Zosima, avant de mourir, a envoyé Alyosha, qui veut rester au monastère, il l'a envoyé dans le monde et il lui a dit « Où est ton frère ?» Et les Karamazov, c'est le chemin d'Alyosha dans le monde, dans un monde qui pue.
Mais est-ce que Zosime n'avait pas dit auparavant, le peuple pue, mais il croit en la vérité?
Je ne me souviens pas de cette phrase-là exactement. C'est... En tout cas...
Le que peuple... La... Oui, mais c'est... là on en arrive, nous les Russes.
Oui, c'est ça, voilà.
Porter aussi le peuple.
La Russie, dit Dostoïevski, est le peuple russe. Russe. Est porteur de la seule vérité divine. À travers la souffrance, à travers la misère, à travers la déchéance. Contre tous les autres, et c'est là que ça pose un problème réel, contre tous les autres peuples de l'Occident, et contre les Juifs. Et au fur et à mesure que Dostoïevski avance dans son œuvre, les notations racistes, antisémites, augmentent. Et il y a deux Dostoïevski. Moi, j'ai jamais voulu traduire les articles de Dostoïevski, je traduis les romans. Mais dans les articles, Dostoïevski devient un penseur nationaliste, anti-occidental, anti-démocrate, antisémite, qui est revendiqué maintenant d'une façon ouverte par toute la Russie, réactionnaire et nationaliste qui est au pouvoir et qui prolifère. Et voilà, et c'est une chose absolument terrifiante. Il y a les deux à la fois. Il y a cette grandeur de la souffrance et en même temps cet appel terrible à la haine des autres. Nous les Russes. La littérature russe est une littérature lourde, dans laquelle la plupart des écrivains, sauf deux, enfin trois, deux disons, Pouchkine et Tchekhov, veulent apprendre aux gens à vivre, veulent apprendre aux gens comment il faut chercher le Christ, et à dire qu'en dehors du Christ, il n'y a pas de salut. Et quand on lit les derniers articles de Dostoïevski, c'est... Enfin, à vrai dire, ça fait peur. Et ce qu'on voit maintenant, avec cette espèce d'exaltation, vous avez parlé de Poutine dans votre chapeau, je pense que c'était indispensable, avec cette exaltation de la russité, de l'identité russe, mot qui en russe n'existe même pas. On ne dit pas, le mot identité n'existe pas. Se revendique de Dostoïevski en oubliant que dans les romans, tout ça s'est mis en structure, s'est mis en poème. C'est-à-dire qu'il y a ça, mais il y a aussi le contraire. Et que justement, c'est pour ça que personne ne peut se revendiquer de Dostoïevski, comme personne dans le roman ne peut se revendiquer de Zassima.
On a compris que vous aviez été élevé dans la langue russe.
Oui.
Vous pouvez peut-être finir par une évocation de ce que vous entendiez dans votre enfance en russe.
Moi, ce que j'entendais dans mon enfance, c'était pas Dostoïevski, c'était Pouchkine, c'est la langue de ma mère, la langue de ma grand-mère, la langue de Надежды сладостной младенческой душа.
Merci à vous, André Markowitz. Trois volumes des œuvres romanesques complètes de Dostoïevski. Déjà chez Actes Sud, le quatrième au printemps et puis le cinquième à la saison prochaine. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec la technique Sandrine Laurent, et je le dirai bien. Franck Olivard pour la préparation. Demain, Mathieu Vidard.
Oui, et tout à l'heure, on va parler.
Tout de suite, pardonnez-moi.
Le nouveau régime méditerranéen.
Ben oui, c'est quand même assez loin de Dostoïevski, qui a quand même vécu en Italie. C'est la raison de ma méprise.
Voilà, le régime méditerranéen pour protéger sa santé et la planète. Ce sera le thème de la tête au carré, Jean.